t'es invité à vous accueillir. Et à vrai dire, pour ceux d'entre vous qui viennent d'autres villes, bienvenue à Lyon et rendez-vous ce soir à l'Hôtel de Ville. Mais plutôt que de faire un discours de bienvenue, si vous me permettez, j'aimerais rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Féliciter et remercier les organisateurs de ce colloque d'avoir choisi ce thème un peu transversal, en tout cas à la frontière entre des disciplines où plusieurs univers intellectuels se développent, mais se côtoient insuffisamment. Et ici, à ce niveau de conjonction entre différentes sciences, ici, il y a beaucoup à réfléchir, à comprendre. Et j'imagine que si nous allons, dans ces 3 jours, beaucoup parler de la représentation du vivant, nous allons aussi parler d'éthique et de bioéthique et de tout ce qui, derrière ces grandes notions, conditionne les conditions de l'exercice et de l'application des sciences. Le terme représentation lui-même, dès que M. Wormser m'en a parlé, m'a beaucoup séduit par sa modestie et le choix d'un désir de recherche d'une représentation plutôt que de faits scientifiques établis. Dans le mot représentation, j'imagine, on y voit quelque chose qui est peut-être temporaire, qui n'a pas prétention à être universel dans le temps et dans l'espace, qui est la représentation que l'on se fait au début du XXIe siècle, dans notre société, du vivant, sans prétendre que cette représentation est un fait établi, définitif, universel et immuable. Et je crois qu'il y a dans cette modestie une authentique approche scientifique, puisque c'est en acceptant que ce puisse être transitoire et valable en certains lieux que l'on travaille aujourd'hui, que l'on progressera dans ces 3 jours, mais que l'on accepte demain une représentation quelque peu différente. Alors le propos que je voudrais avoir avec vous est d'essayer de développer quelle est raisonnablement et quelle doit être l'immersion la plus totale possible du chercheur dans la société du XXIe siècle, loin de la place du chercheur des siècles passés, et notamment dans les sciences du vivant, peut-être encore plus d'ailleurs dans les sciences de l'homme. Il est clair que le temps où les chercheurs pouvaient s'isoler, travailler dans une tour d'ivoire sans pénétrer dans la société est heureusement, et je l'espère, définitivement évolué. Mais il faut encore progresser dans cette interaction permanente entre chercheurs et société moderne. Quand l'on parle de recherche médicale, bien sûr, très clairement, celle-ci doit être effectuée sous le contrôle des humains, de tous les humains de notre société. C'est une recherche qui est faite par l'homme, qui est faite pour l'homme et qui, quelquefois, a même l'homme comme objet. Et très clairement, il serait déraisonnable qu'un petit nombre s'approprie les thèmes de recherche, les moyens de la recherche, l'application de la recherche, prétende avoir la vérité sans que ça soit contrôlé par l'ensemble de la population. Ceci définit les règles éthiques les plus habituellement utilisées aujourd'hui. Elles n'ont pas toujours été de cette nature. Mais je crois qu'il y a, dans ces impératifs d'aujourd'hui, d'une dimension éthique pour cette recherche sur le vivant, cette recherche pour le vivant, il y a la volonté que l'éthique soit appliquée à toutes les phases, que ce soit lors de l'énoncé de la thématique de recherche, lors de la poursuite de celle-ci et des moyens utilisés, lors enfin de son application, en respectant les règles éthiques que notre société veut bien se définir, pour peu que l'ensemble de la société, et vous savez comme moi qu'il est parfois difficile de la mobiliser suffisamment pour qu'elle s'exprime en totalité, pour peu qu'elle valide les choix éthiques proposés. Alors il est vrai que dans la deuxième moitié du XXe siècle, il y a eu des progrès immenses dans ce domaine, et l'on a vu, par nécessité, au fur et à mesure de la progression scientifique, technologique, on a vu se développer des comités d'éthique, des juridictions, des réflexions ouvertes, plus ou moins libres ou canalisées. Et ceci a été un bouleversement. une coordination de toute cette réflexion spontanément développée apparaît peut-être maintenant plus nécessaire. Coordination déjà à l'échelle européenne, on se rend compte des difficultés qu'il y a à proposer des visions éthiques différentes entre pays de l'Union européenne, mais même à l'échelle mondiale. Et les efforts qui ont été entrepris jusqu'à maintenant apparaissent un peu timides, en tout cas insuffisamment volontaristes, pour relever des défis qui ne pourront être valablement relevés qu'au niveau mondial. Car définir des règles en un lieu étroit de notre globe, en laissant la possibilité à tout un chacun d'aller ailleurs, développer des conditions totalement opposées, n'est pas raisonnable. Je n'ai pas besoin de citer d'exemple, vous les avez tous à l'esprit. On sait aujourd'hui à quel point des activités considérées comme opposées à l'éthique dans tel ou tel pays, voire continent, se développent très largement dans d'autres lieux, sans qu'il y ait eu une réflexion unanime suffisante. Cette coordination future devra bien sûr se garder de toute tentative d'hégémonie, de toute tentative de réduction de la réflexion, ce qui n'est pas aisé. Certains, parce qu'ils sont plus avancés dans les sciences, voire aussi dans l'éthique, peuvent avoir la tentation d'appliquer leurs méthodes et les fruits de leur réflexion à l'ensemble du globe. Et ce serait déraisonnable, car cette hégémonie ne respecterait pas alors correctement la différence des cultures qu'il nous faut intégrer. Même s'il y a des lieux où les sciences sont beaucoup moins développées, même s'il y a des lieux où la réflexion éthique est encore embryonnaire, ces lieux-là méritent d'être regardés sur un pied d'égalité en termes de culture, et nous ne pouvons pas leur imposer le fruit de notre réflexion sans tenir compte de ces différences culturelles. Je voudrais, à ce point de mon propos, indiquer que si nous nous projetons dans le futur, et que le vœu que je formule ici même, qu'une réflexion un peu plus globalisée, non excessivement uniforme, non réductrice, acceptant la diversité, mais en tout cas conduite d'une façon mieux coordonnée au niveau mondial, admettons que ce soit déjà réalisé. Eh bien alors, il nous faudra faire très attention de préserver la réflexion éthique individuelle de chacun, chercheur, médecin, autre intervenant, car dès maintenant, on se rend compte que malencontreusement, dans les pays les plus évolués en termes de réflexion éthique, il y a parfois des tendances à la déresponsabilisation éthique des individus. Je veux dire par là que s'il est important que chaque médecin, chaque chercheur, chaque biologiste, chaque scientifique ait participé à une grande réflexion éthique et connaisse les règles qui, à un moment donné, sont proposées et qu'il les applique, il serait très grave qu'il supprime, qu'il cesse d'avoir une réflexion individuelle qui a toujours prévalu dans le passé, qui était peut-être insuffisante, mais qui risquerait de disparaître si chacun considérait que parce qu'il s'inscrit dans un certain cadre juridique et éthique, alors il a le droit d'aller et venir comme bon lui semble dans ce cadre, sans nourrir sa propre réflexion. Ce serait, me semble-t-il, dangereux. Ce serait aller encore plus loin dans le développement de biozéticiens professionnels qui ont leur place, mais qui est une place partielle dans l'édifice. Et ce serait, en définitive, créer des chercheurs qui pourraient se soustraire à la dimension de la réflexion éthique et qui pourraient ainsi, de temps en temps, malheureusement, s'écarter d'une voie réfléchie dans leur piste de recherche. Je voudrais maintenant, si vous permettez, aborder un autre aspect qui est celui du financement de la recherche. Car il n'y a plus, dans tous les domaines que j'évoquais, de possibilités de progression significative sans des financements notables. Financements pour une bonne part publique, mais parfois, et c'est heureux, combinant des apports publics et privés. Il est clair que ces financements soient nationaux ou internationaux, il est clair qu'il y a là une justification supplémentaire à la nécessité pour les chercheurs d'expliquer à toute la population, en termes intelligibles, les projets de recherche futurs et les résultats des recherches effectuées. Mais la dimension éthique, elle, ne doit pas s'appliquer seulement aux conditions qui bénéficient de subventions publiques. La dimension éthique doit s'appliquer à la totalité de l'activité de recherche. Il est vrai que selon les cultures, selon les continents, ce sujet est vu différemment. Aux États-Unis, par exemple, il est certaines règles éthiques qui s'appliquent d'une façon contraignante à ceux qui bénéficient de subventionnement public, mais non à ceux qui effectuent des recherches subventionnées par le privé. À mon sens, l'approche européenne qui définit d'une façon égale les conditions éthiques est plus raisonnable, car il serait certainement dangereux et regrettable que des investigations qui seraient interdites pour des raisons d'éthique discutables dans le secteur public soient tolérées dans un domaine privé, là où le contrôle est encore plus difficile à appliquer, où la transparence est moins absolue. Et donc, il me semble souhaitable que, ensemble, nous puissions militer pour que les règles éthiques soient valables dans les différents secteurs et que personne ne puisse s'y soustraire sous prétexte qu'il ne bénéficie pas de subventions publiques. Bien sûr, il est des secteurs, notamment dans le côté industriel, où il y a une nécessaire confidentialité. Il n'est pas question de la remettre en cause. Cela se comprend aisément, et si à certains moments la transparence est nécessaire, à d'autres moments de la recherche, pour peu que les chercheurs dans ces industries appliquent les règles éthiques définies en commun, il est tout à fait compréhensible, acceptable et raisonnable qu'une grande confidentialité soit appliquée, le temps, par exemple, de telle ou telle brevetabilité, publication ou avancée quelconque. Et le contrôle par les pairs, au moment où la transparence se fait, le contrôle par les pairs est dans tous les cas une nécessité première. Ce contrôle, bien sûr, s'applique lors de la publication, lors des résultats. Idéalement, il doit s'appliquer aussi à une phase plus précoce, à une phase initiale, au moment où le projet de recherche lui-même se développe ou est proposé. Plus tard, à la phase de la publication des résultats scientifiques, il est important que les règles qui existent soient maintenues, mais il est important que ces règles évoluent. Vous connaissez les habitudes qui veulent que la diffusion dans la grande presse succède à la diffusion dans les journaux scientifiques. Mais comment accepter au XXIe siècle que certaines revues demandent des délais de 1 an avant la publication, à une époque où le transfert d'informations par voie électronique est aussi rapide? Il est tout à fait évident que nous devrons, par les nouvelles techniques de l'information et de la communication, trouver les moyens d'accélérer ces processus pour que chaque fois que des résultats importants apparaissent, ils puissent être validés par les pairs dans des conditions quasi immédiates, électroniques, sous une forme qui permette ensuite la diffusion plus large au public. Et donc il y a là matière à réflexion pour ne pas laisser se pérenniser cet héritage de lenteur qui n'est plus adapté à notre temps. Bien sûr, et j'en suis totalement convaincu, la recherche doit disposer d'une grande dimension de liberté. Cependant, le principe de réalité nous amène à comprendre que, outre les réflexions éthiques, il faut tenir compte des conditions de financement, il faut tenir compte des modalités d'application des fruits de la recherche, et tout ça ne peut pas être imaginé sans un certain encadrement. Il me semble que l'Europe, à cet égard, a une place à tenir dans le monde, pour peu qu'elle devienne plus volontariste dans une recherche mieux coordonnée au niveau de l'ensemble de l'Union européenne. En effet, sur le plan historique, l'Europe a, me semble-t-il, toute justification à se donner l'ambitieux objectif de chercher une voie moyenne entre une approche qui serait peut-être excessivement libérale et qui peut prédisposer à certains dérapages qu'on a parfois vus et de façon regrettable, et à l'inverse, une approche trop encadrée, trop réglementée, qui est souvent inhibitrice de créativité et d'initiative. L'Europe a su être, dans l'histoire, très créatrice, très imaginative. Elle l'est encore aujourd'hui. Elle peut proposer un schéma entre ces deux voies extrêmes. Avant de conclure, permettez-moi de juste, à titre d'illustration, citer une expérience personnelle pour essayer de donner un peu de support concret aux quelques propos un peu généraux que je viens de tenir, faisant état de l'expérience que j'ai eu à connaître lors du développement initial, il y a maintenant quelques décennies, de l'application des greffes de cellules fœtales chez l'homme, à un moment où il n'y avait pas encore de comité d'éthique, à un moment où la réflexion sur ce thème suscitait des réactions diverses et émoustillait des sensibilités parfois contradictoires. Le hasard voulait alors que, ayant la nécessité de traiter certains enfants, ayant observé que chez la souris, pour certains des enfants, la seule possibilité thérapeutique était de recourir à des cellules d'origine fœtale, il devenait, pour le médecin que je suis, d'un impérieux devoir de ne pas priver d'une possibilité de guérison des enfants autrement condamnés. Mais il fallait le faire en respectant des règles éthiques qui n'étaient pas alors énoncées. Et à cette époque, tout en développant la recherche nécessaire à l'application de ces thérapeutiques, tout en essayant de franchir les étapes le plus vite possible, car certains enfants étaient déjà en attente du traitement dans des bulles stériles où on ne pouvait pas imaginer de laisser pendant de nombreuses années. Simultanément à tout ça, nous avions, avec le professeur Louis Roche, à qui je veux rendre hommage, et qui s'occupait de médecine légale, d'emblée évoqué la nécessité de ne pas restreindre notre réflexion à un groupe de médecins et de chercheurs, mais d'intégrer des groupes divers de la société, représentant des philosophies très distinctes, des courants de pensée multiples, et en initiant avant la lettre une sorte de petit comité d'éthique de l'université Claude Bernard, qui a pris comme premier sujet de réflexion cette question du prélèvement et de l'utilisation de tissus fœtaux humains pour des fins thérapeutiques et des greffes chez les enfants qui en avaient besoin. Et il est vrai que cette réflexion a été intéressante, a permis d'élaborer une charte et nous a permis d'avoir un certain confort intellectuel. Et surtout, nous nous en sommes bien portés quand, plusieurs années plus tard, sous l'effet d'une polémique qui voulait remettre en cause tout cela, il nous a fallu justifier non seulement les conditions de notre travail, mais encore la justification éthique de celui-ci. Et il était infiniment plus agréable et confortable d'indiquer que ce n'était pas des choix personnels d'un médecin soumis à la pression d'une famille de malades, mais que c'était un choix qui avait été discuté en commun par des personnes venant d'horizons variés. J'ajoute que cette diversité des opinions nous permettait, dans la charte, de tenir compte de multiples impératifs auxquels peut-être les uns ou les autres d'entre nous n'aurions pas pensé. D'ailleurs, c'est avec plaisir que quand le comité national d'éthique a été mis en place et que le premier sujet sur lequel il s'est penché a été ce même sujet des tissus fœtaux, nous avons eu le plaisir de voir que, dans ces grandes lignes, il reprenait beaucoup des conclusions de cette charte en leur donnant beaucoup plus de relief et d'application très large pour l'ensemble de notre pays. De tout cela, je crois qu'on peut retirer très modestement l'idée qu'on se porte toujours bien de faire confiance à la diversité des opinions, la réflexion en commun, à ne pas vouloir tout seul trouver la solution pour des questions qui concernent l'ensemble de notre société. Et en tout état de cause, je reste plus que jamais convaincu qu'il y a une sagesse populaire qui, même si parfois elle peut être amenée à quelques errements, a en tout cas statistiquement beaucoup plus de chances de ne pas s'égarer que la sagesse d'un tout petit groupe, fût-il un groupe très développé sur le plan intellectuel dans une spécialité, mais qui n'aurait pas la possibilité d'embrasser la totalité des courants de pensée qui composent notre société plurielle d'aujourd'hui. Et je terminerai en indiquant que ce qui se passait à cette époque, d'il y a deux ou trois décennies, se passe aujourd'hui pour d'autres sujets sur lesquels il est important que nous réfléchissions, tels que, par exemple, et on aura l'occasion d'en parler dans les prochains jours, le clonage à visée reproductive, que je crois personne ne soutient, mais que faisons-nous pour l'empêcher au niveau mondial? Car à quoi servirait-il de l'empêcher parmi quelques millions d'habitants si on le laisse à côté? Et un autre dispositif qui mérite davantage de réflexion, le clonage à visée thérapeutique, qui serait mieux appelé d'ailleurs transfert nucléaire, qui n'offre pas les mêmes fantasmes, les mêmes inquiétudes, mais qui, lui encore, n'est pas tout à fait avancé sur le plan scientifique. Faut-il l'encourager? Faut-il interdire? Faut-il suivre la direction que nous proposent les Anglais ou celle que nous proposent d'autres pays? Il y a là différents points de vue. Je crois qu'il faut ne pas s'octroyer à soi seul la réponse, mais bien ouvrir la discussion et faire en sorte que la révision toute prochaine des lois de bioéthique dans notre pays puisse intégrer une réflexion très large qui peut-être pour la première fois énoncerait vraiment le sentiment de l'ensemble de la communauté française sur des thèmes qui concernent tout le monde, car il s'agit de faits de société qui concernent largement autant la population que certaines autres thématiques politiques sur lesquelles notre société est parfois consultée. Imaginons que ces dispositifs qui maintenant existent et qui se perfectionnent pour cette réflexion de plus en plus largement effectuée aient existé à l'époque où le nucléaire a été inventé. Eh bien, peut-être que nous nous en porterions mieux, car j'imagine que la sagesse populaire aurait à l'époque indiqué application du nucléaire en médecine, oui. Application du nucléaire à des fins militaires, non. Pas de bombes atomiques. Application du nucléaire pour l'énergie, peut-être que oui, mais dans des conditions très contrôlées. Je pense que c'est ce qu'aurait dit la sagesse populaire et on aurait évité quelques erreurs de l'histoire. Merci.